La voiture file, drainant toujours dans son sillage un amas de poussière sableuse. Riley et Trevor quittent à présent la zone urbaine. Birdsville, commune la plus reculée d'Australie, rétrécit dans le rétroviseur extérieur. Trevor se cale confortablement sur le siège trop grand pour lui et réajuste son chapeau. Il fait déjà plus de 35 degrés dehors et des mouches du bush s'agitent dans l'habitacle. Par dizaines, elles tentent de boire au coin de ses yeux ou à la commissure de ses lèvres. Elles agacent Riley, mais il va devoir les subir jusqu'à leur repli à la tombée du jour. La route qu'ils empruntent de Lily Way serpente au cœur des vastes étendues rougies. Cette piste légendaire suit les pas des premiers explorateurs et les chemins qu'empruntaient les éleveurs quand ils déplaçaient leurs troupeaux. Elle relie la ville de Bedouri, baptisée l'Oasis du désert, à Boulia. Sur la gauche, deux panneaux en forme de losange, les fameux panneaux routiers australiens, avertissent les conducteurs de la présence de kangourous et de chameaux sur les 88 km prochains. Le kangourou et le chameau, peints en noir, sont figurés sur fond orange et en dessous de leur dessin est inscrit « Next 88 km ». Malgré son hostilité, le désert intérieur australien est le refuge d'un grand nombre d'animaux qui ont su s'adapter à la rudesse du milieu. Parmi eux, bien sûr, les grands kangourous roux qui, malgré leur gabarit imposant, ont des pattes arrière si puissantes qu'elles leur permettent d'atteindre des vitesses de plus de 60 km/h. Ils représentent un réel danger sur la route, car ils provoquent fréquemment des accidents. Dans les coins où la visibilité est gênée par la présence de buissons sur le bord de la piste. De temps en temps, des carcasses sur le bas-côté rappellent à Riley la nécessité de rester attentif. La journée se déroule monotone. Trevor et son père avalent la distance qui les sépare du moment, encore lointain, où ils feront halte pour la nuit. Il longe un bout de la trajectoire de la fameuse Dingo Fence, cette clôture longue de plus de 9000 km qui traverse pas moins de 3 états de l'Outback. Censée protéger le bétail des dingos et des renards, elle mesure 1,80 m de haut et s'enfonce de 30 cm dans le sol. Trevor la connaît bien. Il lui arrive régulièrement d'aller vérifier que la barrière sur le territoire de Clifton Hills est en bon état et au besoin de la réparer si des dépouilles de son cheptel ont été retrouvées. Les seules traces de civilisation dans ces paysages uniformes se résument donc à cette clôture de fil de fer et à quelques vieilles éoliennes rouillées qui tournent au vent. La voiture poursuit son chemin à une moyenne de 50 km/h, dans une alternance de plaines de sable et de portions de caillasse. La vitesse relative est cependant grisante sur la piste sans trafic. La végétation est pauvre et sèche, mais certains arbustes persistent à s'illustrer d'un vert vif. Par moments, il détecte au loin, dans ce milieu désertique et inhospitalier, de rares empreintes humaines. À travers les élevages bovins et les habitations aux toits de tôle ondulés, toujours adjacentes d'éoliennes. En général, il devine la proximité des hommes par le spectacle de chats, dingos ou renards étripés et pendus par les pattes à un arbre. Riley et Trevor le font eux-mêmes souvent, car tous les Aussies détestent et tuent systématiquement ces animaux qu'ils considèrent comme de la vermine introduite par les colons britanniques. La chaleur est maintenant torride. Elle brouille l'horizon, le rendant flou, vaporeux. Le pick-up dépasse un panneau avertissant les voyageurs téméraires. remote desert wilderness experience well equipped and all wheel drive travelers only. No habitation or service for the next 370 km. Rien de très impressionnant pour ces natifs du sauvage outback que sont Riley et Trevor. Même si quelques kilomètres plus loin, un squelette de vache sur le bas-côté achève de planter un décor inquiétant. Tout à coup, rompant la monotonie du voyage, un bruit cinglant retentit à l'arrière de la voiture. Riley a compris et stoppe immédiatement. Tous les deux regardent le pneu arrière gauche qui fume encore. Crevé, explosé, réduit en petits morceaux, trop chaud pour être manipulé. Ils doivent attendre qu'il retombe à une température acceptable. La voiture est arrêtée au milieu de nulle part, portes ouvertes. Personne à l'horizon, Trevor sort du coffre le cric et le pneu de rechange. Ensemble, père et fils posent la roue de secours. Le jour est en train de tomber. Ils sont toujours sur la Bilby Way, mais Riley commence à songer à s'arrêter. Dans le désert, il est déconseillé d'attendre la nuit noire pour préparer son bivouac. Parce qu'il est un homme du désert aguerri, il préfère mettre à profit la lumière du jour pour vérifier l'environnement du lieu choisi et s'assurer de leur sécurité. Justement, le pick-up arrive à un point d'eau artificiel. Dans les années 1960, le gouvernement en a creusé beaucoup tout au long de cette route qui servait à relier plusieurs forages de puits de pétrole. Aujourd'hui, les animaux s'y abreuvent et les aborigènes s'y baignent parfois. L'eau est très claire, pure. Trevor descend de la voiture et court jusqu'au petit lac. Il observe et remarque que le sable se gondole par endroits. En familier de la survie dans le désert, Trevor sait déjà quel trésor il va dénicher pour ce réservoir. Pendant ce temps, Riley prépare le campement. Rassemblant du bois, sortant une vieille poêle à frire en fonte, Trevor, penché sur l'eau, pêche les écrevisses à la balance qui feront leur dîner. Le feu crépite. Nos deux voyageurs du désert ont encerclé leur campement de lanternes qui diffusent une lumière douce. De petits tourbillons de sable poursuivent quelques touffes de buissons séchés qu'un vent léger fait rouler au travers de la route. Les écrevisses grésillent dans la large poêle en fonte noircie par les flammes qui la lèchent. La température est devenue agréable. Riley et Trevor peuvent marcher pieds nus sur le sable orange sans se brûler. Un bonheur pour leurs pieds affranchis de chaussures asphyxiantes, d'autant que le sable est si fin qu'on croirait toucher de la soie. Le ciel est d'une clarté étoilée. Il préfigure beau temps et chaleur pour demain. En autonomie complète, père et fils goûtent leur courte soirée auprès du feu de camp dans la plus grande solitude. Bien que complices, ils ne sont ni l'un ni l'autre très loquaces. Et cette proximité silencieuse leur suffit. Au petit matin, le sable porte des cicatrices. Il a gardé en mémoire les traces de l'activité nocturne d'araignées, de lézards et de petits marsupiaux. Les dunes sont magnifiquement dessinées par le soleil rose à l'horizon. Elles dessinent des lignes gracieuses et symétriques. Elles doivent leur couleur rouge à la fine couche d'oxyde de fer enveloppant les grains de sable qui les forment. Il fait encore frais. Quelques nuages parsèment le ciel déjà bleu. Un silence absolu règne. Trevor est profondément endormi dans le 4x4. Seule sa petite tête sort du soie qui émitoufle son corps tout entier. À l'arrière du véhicule, Riley est en train de vider le contenu d'un bidon d'essence dans le réservoir. Il en reste deux pleins dans le coffre. Il a déjà tout remballé et fait disparaître les marques de leur passage. Seul vestige, les restes carbonisés de morceaux de bois. Trevor ouvre péniblement les yeux, sort de sa torpeur et se dégage avec lenteur de son enveloppe douillée. Riley est en train de réduire la pression d'un de ses pneus pour faciliter la conduite dans le sable et ne pas s'y enfoncer. Avec une surface de contact plus grande que le sol et une répartition du poids, la conduite sera meilleure. Trevor bondit de la voiture et demande à s'occuper des autres pneus. Le pick-up est arrêté sur le bord de la piste. Nouvelle crevaison, mais cette fois à l'avant. Un petit caillou, plus pointu que les autres, aura suffi. La voiture est surélevée, soutenue par un vieux cric tout rouillé mais solide. La clé en croix dévisse les boulons qui tiennent la roue. Elle fait plusieurs tours, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tous les deux sont rompus à l'exercice. La manœuvre est banale. Dans le bush, il n'existe pas une personne qui n'ait jamais crevé. La main de Trevor retire la roue esquintée, celle de Riley place la deuxième et dernière roue de secours et termine l'action en vissant les écrous. Trevor dépose la roue crevée dans le coffre, claque la portière puis monte à l'avant. Prudent et avisé, son père vérifie cependant du pied la fiabilité du nouveau pneu avant de reprendre la place du conducteur. Il repart. À cet endroit, la piste n'est pas stabilisée. Des portions très caillouteuses empêchent Riley de rouler à un rythme régulier. Il reste très prudent. L'effet tôle ondulée de la surface de la route secoue le conducteur et son passager. Ils sont malmenés par les mouvements chaotiques de la voiture. L'état de la piste s'est dégradé. Ils n'ont fait que 35 km en 2 heures. Bien que Riley embraye et débraye les vitesses de la manière la plus délicate possible, afin que ses pneus avancent tout doucement, Trevor est ballotté. La tempête de sable de la semaine dernière qui a balayé l'est de l'Australie a dégradé la piste. Cette portion que traversent Riley et Trevor, partiellement effacés ou ensevelis sous des monticules de sable, est éprouvante. Plus tard, alors que Trevor est en train d'étudier la carte routière avec attention, Riley lui pose une question. Est-ce qu'il y a une ferme dans le secteur où on pourrait demander une roue de secours supplémentaire ? Demande Riley. Je ne veux pas rouler trop longtemps sans avoir une réserve. Ce n'est pas prudent. On n'est pas à l'abri d'une autre crevaison. Il y a Pampra High Station à 45 km, mais ça fait un gros détour. Ce n'est pas grave. On pourra quand même arriver à Mount Isa avant la nuit et je serai plus tranquille. Le jeune copilote pose son doigt sur la carte et montre à son père où se situe la plus proche habitation. En déviant pour se rendre à la ferme, il se retrouve sur un chemin de traverse chaotique et instable. Ils sont forcés de tracer eux-mêmes la piste. Riley s'arrête pour diminuer encore un peu la pression des pneus afin de mieux accrocher sur le sable. La voiture grimpe sur une dune. Arrivés au sommet, Riley et Trevor découvrent une plaine tapissée d'arbres. Comme un jardin dans le désert. Les arbres sont secs mais bien vivants et les formes torturées de ces long gum trees, des eucalyptus solitaires, en disent long sur les conditions extrêmes dans lesquelles ils s'enracinent. La voiture descend avec lenteur. Riley fronce les sourcils. Une fumée s'échappe du capot. Le moteur chauffe et ne parvient pas à se réguler sous les 40 degrés ambiants. Le véhicule est fatigué, fumeur à la peine. Quelques mètres suffisent pour que la fumée se densifie, puis la voiture cale, Riley et Trevor en descendent. Avec des gants, Riley ouvre le capot qui exhale encore plus. Le moteur est brûlant, impossible d'entreprendre quoi que ce soit tant qu'il n'a pas refroidi. Riley diagnostique une panne du système de refroidissement. Trevor, passionné de mécanique, voudrait bien mettre les mains dans le moteur tout de suite et changer lui-même la durite. Sors la caisse à outils du coffre, Trevor, tu vas m'aider. Mais avant, il faut attendre, le moteur est trop chaud. Chapeau de cow-boy rivé au crâne, père et fils sont assis à l'ombre d'un des Lone Gum Trees. Un peu plus loin, la voiture est béante, capot ouvert, tentant de tirer profit du moindre filet d'air pourtant brûlant. La patience et le sang-froid sont des qualités précieuses quand on tombe en panne dans le désert. En bon nausée, Riley et Trevor ne manquent ni de l'un ni de l'autre. Tranquillement, Riley s'est allongé sous l'arbre, le chapeau couvrant son visage. Trevor est assis à côté de lui, il patiente. Après avoir remis du liquide de refroidissement dans le radiateur et s'être assuré que le moteur pouvait atteindre de nouveau sa température normale de fonctionnement, Trevor et Riley repartent pour se rendre à Pampra Isle Station. Là, ils peuvent échanger leur route secours crevée contre une autre, comme l'espérait Riley. Mais le moment d'arrêt ne dure pas, la route à faire est encore longue et chaque imprévu rallonge d'autant la durée du trajet. Riley claque la porte arrière du coffre et monte à l'avant. Riley fait un signe de la main au former depuis le siège conducteur en guise de remerciement et d'au revoir. Le former tapote le toit de la voiture et s'écarte quand elle démarre. C'est le plein après-midi, la chaleur est intense, à perte de vue. Le désert qui décline dans une harmonie naturelle, un camailleux pigmenté de bleu ciel, de l'ocre des dunes, du vert des buissons du bush. La bulle dust, fine poussière rouge, s'infiltre partout. Elle donne aux cheveux de Riley et Trevor des nuances orangées, la couleur de leur terre. Au loin, Trevor croit distinguer une forme sombre en travers de la piste. À l'approche, il s'avère que c'est le corps sans vie d'un kangourou, victime comme beaucoup de ses congénères d'une collision avec un véhicule. Ils appellent ça un roadkill, dépouille d'animaux tués par un véhicule de la route. Riley descend de la voiture pour tirer la carcasse encore tiède sur le bas-côté. Il pense à la sécurité et au confort des automobilistes et cherche à éviter que les rapaces attirés par la charogne ne soient à leur tour en travers de la route. Par acquis de conscience, il vérifie également la poche ventrale du kangourou, mais stupeur, un bébé a survécu à la mort de sa mère. Trevor, viens vite! Apporte mon vieux pull, il y a un petit Joey vivant dans le ventre du kangourou. Trevor bondit. On peut encore le sauver? Demande-t-il. Riley est en train d'improviser une poche de fortune en nouant les manches de son pull. Glisse-le dedans et mets-le contre toi. Il n'est pas capable de générer sa propre chaleur, il faut le garder bien au chaud pour maintenir sa température. Je peux le mettre sous ma chemise, comme ça il va avoir bien chaud, mais qu'est-ce qu'on va en faire? S'il vit encore, on s'arrêtera à un refuge animalier. C'est une situation courante. Ici, chaque ville possède un refuge animalier qui recueille, entre autres, les bébés marsupiaux orphelins, trouvés vivants dans les poches de leur mère à la suite d'accidents de la route. La piste brûlante, chauffée à blanc par le soleil, provoque un effet d'optique. Tel un mirage, la ville apparaît renversée dans ce qu'on pourrait prendre pour de l'eau, ce qui n'est que le reflet du ciel. Un panneau de signalisation précise Boulia 1 km, Mantisa 305 km. Quelques minutes suffisent à traverser Boulia, petite commune de 300 habitants. Quand ils sortent, ils laissent derrière eux un obélisque et un gigantesque moulin à vent qui souhaitent la bienvenue aux arrivants. Ils suivent le panneau indiquant le refuge animalier. Le détour n'est pas important. Le petit Joey est confié par Trevor à l'équipe qui prendra soin de lui. L'élèvera puis le relâchera à l'âge adulte dans la nature. Les kilomètres continuent de défiler au compteur. Plusieurs écriteaux indiquant la progression du voyage s'enchaînent dans un décor qui évolue. De moins en moins désertique, de plus en plus citadin. Tajara, 135 km. Mount Unbemaro, Longside Puck, Mount Isa, 195 km. Puis Big Red Bluff, Mount Isa, 45 km. Sheila Bor, Mount Isa, 10 km. Puis le compte à rebours kilométrique diminue. Et plus l'euphorie et l'excitation de Trevor augmentent. Enfin, c'est le bout du voyage. Deux jours après avoir quitté sa maison, Trevor arrive au terme de son chemin de l'école, un road trip de 700 km. L'arrivée à Mount Isa se fait par une route à voie unique avec des bas-côtés stabilisés pour croiser les véhicules ou les doubler. Le 4x4 est pris dans la circulation de la ville. Étourdi, enivré par l'activité urbaine, Trevor se laisse absorber par le spectacle citadin animé et bruyant. Ici, pas d'immeubles aux étages élevés, mais une succession de petits bâtiments avec des terrasses colorées agrémentées de parasols à l'anglo-saxonne. Le périple touche maintenant à sa fin. L'école n'est plus qu'à 2 km au nord-ouest de la ville. Trevor affiche un sourire de ravissement. Ce soir, ils dormiront dans un camping aux abords de Mount Isa, dans un environnement aux antipodes de la nuit précédente. Au moins, ils pourront prendre une bonne douche. Trevor aura certainement du mal à trouver le sommeil en pensant au lendemain. La porte du 4x4 terreux s'ouvre. Les pieds de Trevor foulent le gravier du parking. Le petit cattleman, vacher, éleveur, bricoleur du bush s'est métamorphosé en sage écolier. Il arbore son bel uniforme coloré. Après une pudique mais tendre accolade avec son père, ils se disent au revoir. Vendredi, je serai là, je t'attendrai, dit Riley. Bonne semaine. Un magnifique acacia géant ombrage les quelques mètres à parcourir pour accéder à l'entrée du bâtiment principal de l'école. Signalé par un long mât en haut duquel flotte le drapeau national. Le petit groupe d'élèves a été rassemblé par le directeur devant l'entrée en arc de cercle de l'édifice. Une jeune fille de son âge donne un coup de coude complice à Trevor en lui montrant un détail amusant sur la longue fresque murale qui accueille les visiteurs. Cette grande peinture aux couleurs vives croque des enfants tout sourire assis sur une balustrade entourée d'images caractéristiques de la faune et de la flore d'Australie. Chevaux, serpents, haras multicolores, dingos, kangourous. Et aussi des chapeaux de cow-boy typiques, des éoliennes, des road signs, les panneaux de signalisation. Le détail qui met autant en joie la camarade de Trevor est l'expression de peur peinte sur le visage d'une fillette. Elle regarde épouvantée le serpent qui s'enroule autour de sa jambe, un comble pour des gamins du bush habitués à côtoyer ces spécimens qui ne les effraient plus depuis bien longtemps. Pendant ce petit moment de complicité, le directeur de l'école a commencé à exprimer les mots de bienvenue. Ces enfants, autonomes et matures dans leur environnement mais solitaires, semblent un peu perdus dans cette aventure de groupe. Filles et garçons écoutent avec attention le directeur qui conclut en les invitant à entrer. Le lieu ressemble à toutes les écoles du monde, accessible, clair, coloré, récréatif. Des pas dessinés sur le sol guident Trevor et ses nouveaux compagnons à travers les couloirs dont les murs sont embellis par des dessins d'enfants bariolés. La petite troupe pénètre dans ce qui sera sa salle de classe pendant une semaine. De forme octogonale, bardée de hautes étagères qui débordent de livres, elle est lumineuse grâce aux nombreuses fenêtres vitrées qui la servent. Le groupe s'assied par terre en tailleur. Trevor se reconnaît en photo sur le mur. Une grande carte d'Australie intérieure est piquetée de photos de tous les élèves de la School of the Air de Mount Isa, éparpillée aux quatre coins du pays. L'image est éloquente. Elle met en relief la démesure de l'espace dans lequel se disséminent les nombreux élèves. Le directeur introduit les deux professeurs qui se relaient pour faire cours aux enfants depuis le début de l'année. Moment étrange et plaisant pour chacun. Ils se parlent chaque jour depuis des mois. Un lien s'est tissé. Une certaine familiarité est acquise. Et pourtant, ils ne se connaissent pas. Les professeurs cherchent à en savoir un peu plus sur chaque élève, sa famille, son environnement, ses centres d'intérêt. Ils posent des questions et très vite une interactivité s'installe entre les enseignants et les enfants, mais aussi entre les enfants eux-mêmes. Pour l'instant, il n'est pas encore temps d'aborder le domaine scolaire. La fourchette se plante dans la tourte. Le couteau l'entaille. La bonne bouchée ainsi capturée atterrit dans le gosier de Trevor, apparemment affamé. Son voisin de table n'a pas encore terminé l'entrée, une portion de beetroot, betterave, que Trevor est déjà en train de dévorer sa part de meat pie, tourte au kangourou. Ils sont réunis par groupe de 6 autour de petites tables rondes. On reconnaît autour de lui les petits camarades de classe de Trevor. Ils sont tous restés soudés dans cet environnement encore peu familier. Autour des autres tables, des élèves plus âgés et plus dissipés poursuivent leur déjeuner turbulent. C'est le chariot des desserts qui fait saliver le plus Trevor. Il le voit arriver de loin avec ses dizaines de cupcakes multicolores et ses gâteaux de génoise à la crème. Un des gâteaux en forme de champignon échoue dans son assiette. La cantine est toujours très animée. Ils terminent leur déjeuner dans ce capharnaüm. Les voitures se croisent dans un ballet organisé. En plein cœur du trafic routier de Mount Isa, la bande des enfants est très attentive au professeur. Celui-ci fait de grands gestes, indique plusieurs directions, montre la signalisation des passages piétons, des feux tricolores, donne des explications. Les enfants sont là pour faire l'apprentissage de la vie citadine, s'accoutumer aux codes de la vie urbaine. Ce n'est pas une visite touristique, mais bien pédagogique. L'école sur le tas. Ils assimilent des informations de base qui ne leur sont guère utiles dans le bush, mais qui deviennent pertinentes dans la jungle de la cité. Comment se diriger, se retrouver, les types de dangers, la vigilance à avoir, les indications. Tout est nouveau pour Trevor. Il a devant lui une semaine entière pour se sociabiliser, lui, le petit fermier solitaire, et pour expérimenter les sensations d'un univers, d'un mode de vie à l'opposé de ce qu'il connaît. Ce monde qui pourrait bien devenir le sien s'il en fait le choix. Trevor est le petit dernier de la famille et il est très proche de ses parents. Mais ceux-ci envisagent avec appréhension son avenir car les conditions de la vie à la ferme sont de plus en plus dures. Ils souhaiteraient qu'il fasse des études et trouve une autre activité professionnelle que le dur métier de farmer. L'outback est un autre monde. Ils placent beaucoup d'espoir dans cette semaine d'acclimatation car ils ont conscience qu'elle peut déterminer le futur de Trevor. S'il s'adapte et s'engage dans un cursus long, il pourra choisir une carrière. Ce n'est pas le cas de ses deux aînés, Kylie et Wayne. Eux n'ont pas supporté la vie en ville et ils ont arrêté leurs études très tôt pour s'installer définitivement à la ferme. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent pour Trevor. Il ne le sait pas encore, mais cette semaine sera décisive pour son destin.